Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des ados vaccinés et d'autres non. Au collège et au lycée, les directeurs doivent pouvoir en avoir le cœur net. Un amendement voté à l'Assemblée les autorise à accéder au statut vaccinal des élèves. Explications et réactions dans un instant. Coup de tabac cette nuit en Normandie, en Ile-de-France, en Picardie. Après la Bretagne hier, la tempête se déplace vers l'Est. 250 000 foyers privés d'électricité et des dégâts à constater au lever du jour. À la une ce matin, il y a aussi le chèque carburant, une aide ciblée que promet de nouveau Bruno Le Maire. Ce ne sera pas une baisse des taxes, foi de ministre de l'économie. Le dispositif doit toucher ceux qui en ont le plus besoin. Et on verra ce qu'en pense l'invité du grand entretien, Nicolas.
Oui, il est ingénieur, Jean-Marc Jancovici, et il publie avec Christophe Blain une bande dessinée, une BD, un album sur le pétrole et l'énergie. Il s'intitule cet album Le Monde sans fin. Il est à paraître le 29 octobre chez Dargaud et je suis certain que vous voudrez dialoguer avec lui au 01 45 24 7000. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes.
Climat, quelle solution pour éviter la surchauffe? Journée spéciale sur France Inter avant la COP26. Nous sommes en Camargue où la mer monte et s'infiltre un peu partout. Dans ce journal aussi, Éric Zemmour et les femmes, angle d'attaque politique pour Marine Le Pen et le Rassemblement National. Et Chloroquine, l'un des personnages du nouvel Astérix qui sort aujourd'hui. Il ressemble beaucoup à Didier Raoult. On y croise aussi Michel Houellebecq, croqué en géographe de César.
France Inter.
C'est un amendement adopté cette nuit à l'Assemblée avec la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'à la fin juillet prochain. Un texte qui s'intéresse donc aux enfants et aux adolescents dans leurs établissements scolaires. Les directeurs principaux et proviseurs pourraient ainsi savoir qui est vacciné et qui ne l'est pas pour cibler les campagnes d'incitation au vaccin et les élèves qui peuvent rester en classe en cas de contamination. Consternation des oppositions dans l'hémicycle. Elle dénonce une brèche dans le secret médical. Bonjour Sonia Princet.
Bonjour.
Qu'en pensent les premiers concernés dans les collèges et les lycées? Est-ce qu'ils étaient demandeurs?
Non, ce n'était pas une demande sur le terrain. Vous savez, les campagnes de vaccination dans les établissements scolaires reposent sur le volontariat des familles. Les personnels informent les élèves et leurs parents, mais ne cherchent pas à savoir qui est déjà vacciné. Ce n'est pas leur rôle, selon eux. Il n'y a pas vraiment d'incitation, ce qui explique que très peu d'enfants se soient fait vacciner dans leur collège ou leur lycée. Sylvie Magne, infirmière scolaire en Loire-Atlantique et représentante du SNICS-FSU, le principal syndicat des infirmières de l'éducation nationale, redoute les effets de cette mesure chez nos confrères de France Info.
On va vraiment vers un tout sécuritaire avec un risque de stigmatisation des élèves, quoi qu'on en dise. Nous, on craint en tout cas que ça ne donne lieu à des tensions ou des pressions sur les élèves qui finalement ne choisissent pas tout seuls de se vacciner puisqu'ils sont mineurs et qui pour certains font aussi avec les choix qu'ont leurs parents.
En cas de contamination dans une classe, seuls les élèves cas contact non vaccinés doivent rester chez eux et suivre les cours à distance. Les autres doivent fournir une attestation sur l'honneur des parents. C'était suffisant, selon Bruno Bobkevitch, secrétaire général du syndicat des chefs d'établissement SNPDEN et lui-même proviseur d'un lycée.
Depuis la rentrée, la situation est plutôt favorable. La confiance sur laquelle s'établit effectivement l'attestation fonctionne plutôt bien. Le nombre de cas est assez restreint. On a, à ce stade en tout cas, de l'épidémie, pas besoin d'aller plus loin. Le niveau d'information qu'on nous donnerait là ne semble pas utile pour le moment, je précise bien.
Personne n'a envie de rentrer en conflit avec les élèves ou leurs parents. Le sujet est déjà suffisamment sensible.
Sonia Princet, après les adolescents, faut-il vacciner les enfants? En France, la question ne se pose pas encore, mais ça n'est plus qu'une question de jours. Aux États-Unis, où la vaccination des 5-11 ans pourrait être autorisée à partir de début novembre avec le vaccin Pfizer, la Maison-Blanche est prête. Loïc Laurier n'attend plus que le feu vert des autorités sanitaires.
Une réunion de la Food and Drug Administration mardi prochain, une autre des centres de prévention et de lutte contre les maladies. Les 2 et 3 novembre, l'autorisation de vaccination des 5-11 ans devrait suivre quasi immédiatement. Au total, 28 millions d'enfants sont concernés. Jeff Zients, c'est le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison-Blanche. Nous savons que des millions de parents attendent que leurs enfants dans cette tranche d'âge puissent être vaccinés. Dès que les autorités sanitaires l'auront autorisé, si elles l'autorisent, nous serons prêts à débuter les injections. Les enfants ont des besoins différents. différents de ceux des adultes et notre opération est conçue pour répondre à ces besoins. Oubliez donc la vaccination au sein d'intimidants et gigantesques centres. Les pédiatres seront mobilisés ainsi que les pharmacies ou certaines écoles, 25 000 sites au total. Les doses, elles seront de 10 microgrammes, un tiers de celles injectées aux adultes et les aiguilles, bonne nouvelle, seront plus petites. Reste à convaincre les parents. Dans un pays où la vaccination plafonne, un tiers seulement affirme vouloir franchir le pas dès que possible. Une campagne d'information est en préparation. New York, Loïc Loury, France Inter.
Pour vacciner les enfants, Pfizer a aussi fourni ses données cliniques à l'Agence des médicaments en Europe qui ne devrait pas se prononcer avant plusieurs mois. En Nouvelle-Calédonie, le confinement strict des week-ends va se poursuivre jusqu'à la fin du mois, alors que le troisième référendum pour ou contre l'indépendance aura lieu mi-décembre. Les indépendantistes du FLNKS appellent cette nuit à le boycotter en raison de la pandémie, accusant l'État de ne pas vouloir reporter le scrutin.
France Inter, il est 8h06, 175 km/h à Fécamp, 140 à Granville, 107 km/h à Roissy cette nuit.
Et la tempête se déplace vers l'est, 12 départements en vigilance orange ce matin de l'Île-de-France à la Meuse, 250 000 foyers privés d'électricité dans le nord et le nord-ouest et des scènes impressionnantes en Normandie par exemple. David, chauffeur-livreur, témoignait il y a quelques minutes chez nos confrères de France Bleu Haute-Normandie après s'être aventuré sur le pont de Tancarville.
Je suis parti d'Ormont ce matin à 2h du matin, je suis chauffeur-livreur et bon, c'est une catastrophe. Le pont de Tancarville, ils nous ont fait traverser le pont de Tancarville, c'était... J'ai eu la peur de ma vie. Et là, je suis arrivé sur un fleur. Il y a un échafaudage au niveau de l'église qui est carrément tombé sur la route. Je peux vous dire que pour revenir sur Ormont cet après-midi, je reviens par l'autoroute de Ormont. Je tremblais tellement que je n'ai jamais vu ça. C'était affreux.
Aucun train d'ailleurs ne circule en Normandie jusqu'à 10h ce matin. Le trafic est suspendu jusqu'à midi en Champagne-Ardenne ainsi qu'en Lorraine au nord de Nancy. Une réponse ciblée qui touchera les plus modestes. Bruno Le Maire donne le ton en attendant l'annonce du dispositif retenu pour aider les Français à faire le plein de leur voiture, qui ne sera manifestement pas une baisse des taxes. Le ministre y est farouchement contre et c'est sans doute la raison pour laquelle la décision tarde à être annoncée.
Je veux vraiment dire à tous les Français qui nous écoutent, nous faisons le maximum pour vous aider. Nous faisons le maximum pour trouver la bonne solution. Et si nous n'annonçons pas tout de suite une solution facile, c'est parce que nous vous devons de trouver une solution qui soit économe de votre argent. Et nous prendrons, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, la mesure la plus juste, la plus protectrice et la plus cohérente avec notre volonté environnementale de long terme. On n'oubliera aucune des personnes qui travaillent ou qui cherchent un emploi.
Bruno Le Maire sur BFM hier soir en défense d'une solution ciblée, la plus juste et la plus efficace du point de vue environnemental, prône le ministre. Et justement, pour alléger sa facture à la station-service tout en réduisant ses émissions de CO2, certains passent au bioéthanol. Ce carburant produit à partir de céréales ou de betteraves fermentées, il coûte 1 euro de moins que l'essence au litre. Et il suffit pour rouler avec de faire installer un boîtier électronique dans un garage agréé. Ces garages qui ne chôment pas en ce moment. Illustration dans les Alpes-Maritimes avec Laurent Vareil.
Garage des écoles, bonjour.
Oui, bien sûr, exactement. Du coup, pour vous faire un devis ou pour déjà voir si votre voiture est éligible, j'aurais juste besoin de la photocopie de votre carte grise.
Au garage des écoles avance, c'est le coup de fil à la mode, la conversion au bioéthanol. Il faut dire qu'en ce moment, un argument fait mouche.
Je roule l'éthanol, je mets mes pleins à 30 euros, c'est incroyable.
Manu Pizol, le patron, n'a donc pas beaucoup de marketing à faire.
Il y a un investissement au départ, mais je pense qu'on le rentabilise assez rapidement. J'ai une feuille de calcul d'ailleurs que je donne aux clients réticents pour qu'ils calculent par eux-mêmes en combien de temps ils ont amorti leur boîtier. Mais bon, c'est vite amorti.
L'installation du boîtier électronique dans le moteur coûte en moyenne 1000 euros, tout compris la pose, mais aussi l'homologation et la nouvelle carte grise. Gratuite, car le bioéthanol, c'est écologique, c'est un argument qui a motivé Brigitte.
C'est économique et c'est écologique. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que l'électrique complet, il faut des centrales nucléaires. Donc, est-ce que c'est la panacée? Mais le bioéthanol, c'est naturel, économique. Bon, pour moi, c'est bien.
Tous les garages et boîtiers ne sont pas agréés, on vient donc parfois de loin, et les embouteillages pour convertir sa voiture sont à prévoir dans les semaines qui viennent.
Laurent Vareil, France Bleu Azur, rouler en payant et en polluant moins, voilà qui nous amène à cette journée spéciale climat sur France Inter, à l'heure où le monde va se remobiliser lors de la COP26 dans 10 jours en Écosse. Nous nous penchons sur les effets tangibles du réchauffement de la planète. Ainsi, chez nous, en France, la Camargue, dans le pire des scénarios, serait engloutie à la fin du siècle. Elle subit déjà la montée du niveau de la mer, de l'eau salée pénètre dans les étangs d'eau douce, ce qui modifie les écosystèmes. Reportage près des Saintes-Maries-de-la-Mer, signé Célia Quiret.
Après l'été, la terre de Camargue est sèche, des arbustes typiques ou des salicornes résistent au bord des étangs, l'eau douce manque de plus en plus et l'eau salée avance dans les terres, constate Claire Tétrel, conservatrice des grandes cabanes du Vacarès, un site protégé.
Il y a une élévation du niveau de la mer, donc aussi plus de tempêtes marines, plus de remontées. Et donc ça fait des changements qu'on voit et qui sont là, entre le réchauffement et la montée du niveau de la mer. En Camargue, en tout cas, c'est en cours et ça se remarque.
Et donc des nouvelles espèces aussi peut-être ?
Des poissons marins qu'on retrouve dans le Rhône, qui suivent les courants salés.
Or si l'eau est trop salée, les agriculteurs ne peuvent plus irriguer les rizières de Camargue. Sur ce site, la conservatrice remet régulièrement de manière artificielle de l'eau douce dans les étangs.
C'est un marais qui est en train d'être remis en eau. Parce que sans intervention, du coup, il n'y aurait plus d'eau. On n'a pas le choix de devoir intervenir pour qu'il y ait de l'eau tout l'automne, l'hiver, jusqu'au printemps. Et après, ça ressèchera au printemps.
Or face à la montée du niveau de la mer qui augmente la salinité des étangs, la construction de grandes digues sur les plages n'est plus la solution. Il faut au contraire permettre à la nature de jouer son rôle d'éponge. Eric Hansen est le directeur régional de l'Office français de la biodiversité.
Il faut trouver des solutions fondées sur la nature. Et malheureusement, à chaque fois que l'homme est intervenu, on a quasiment toujours fait des bêtises. Et la nature a toujours bien fait les choses. C'est quand l'homme s'en est mêlé qu'on a commencé à avoir des problèmes.
En 50 ans, la moitié des zones humides, pourtant très utiles face au réchauffement, ont disparu. En Camargue, selon les scénarios, le niveau de la mer pourrait monter d'un à deux mètres d'ici la fin du siècle.
Le reportage de Célia Kiré, comment s'adapter au changement climatique. Le 13-14 se déplace à Nîmes pour évoquer tous ces sujets aujourd'hui. Et à l'instant, Météo France revoit sa carte de vigilance au vent violent. Elle ne concerne plus que trois départements, les Ardennes, la Marne et la Meuse. Contre la présence de toxicomanes qui fument du crack, les maires de Pantin et d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis saisissent la justice. Ils accusent l'État d'avoir déplacé ses usagers trop près de leur commune, entraînant des dizaines de plaintes de riverains pour agression et nuisance.
Il est 8h12. Quel angle d'attaque pour se démarquer, Florence, d'Éric Zemmour et le contrer?
C'est la question du moment au Rassemblement National. En attendant de récupérer ses voix au second tour, comme l'anticipe Marine Le Pen dans une interview à Valeurs Actuelles, il faut trouver la parade. Eh bien, ce sera l'économie, le social et surtout, Élodie Forêt, la place des femmes.
Attaquer Éric Zemmour sur sa vision de la femme, Jordan Bardella, président par intérim du RN, s'y emploie régulièrement, hier encore sur BFM.
Quand Éric Zemmour dit que les femmes n'incarnent pas le pouvoir, qu'elles ne sont que des régentes, qu'elles sont le but et le butin de tous hommes qui réussissent en société, pardon d'avoir une divergence avec lui là-dessus. Parce que moi je suis à la tête d'un mouvement politique qui a pour symbole Jeanne d'Arc et qui a pour ambition, dans 6 mois, de faire élire la première femme présidente de la République française.
Une riposte longuement débattu à chaque réunion en septembre, beaucoup de cadres étaient réticents à cibler leur ami Éric, mais le ton a changé. Il nous prend pour cible, on ne peut pas rester sans réagir, confie un élu. D'un côté dénoncer sa misogynie, donc de l'autre faire un focus sur des sujets qui préoccupent les femmes, comme les déserts gynécologiques, évoqués par Marine Le Pen lundi dans Télématin.
Dans 13 départements en France, il n'y a plus de gynécologues. C'est-à-dire que le droit des femmes à la santé est en train de reculer dans notre pays.
Déserts gynécologiques, mais aussi conditions de travail des sages-femmes au menu du RN ces prochains jours donc. Quand Éric Zemmour, lui, continue sur sa lancée, assumant encore le week-end dernier son hostilité à la parité.
Élodie Forêt, suspendue depuis 2 ans, le train des primeurs, de nouveau sur les rails. Cette liaison emblématique entre Perpignan et le marché de Rungis reprend du service demain pour acheminer des fruits et légumes, assortis d'une autoroute ferroviaire qui va bientôt relier les Pyrénées-Orientales à la région parisienne. Cécilia Arbonnat.
12 wagons réfrigérés remplis d'agrumes, de concombres et de tomates quitteront les quais de Perpignan demain à 16h30 pour être déchargés 10 heures plus tard au marché international de Rungis.
C'est un des derniers trains de messagerie qui roule à la vitesse de 140 km/h. C'est un peu notre TGV.
Mickaël Meusnier, délégué syndical CGT Cheminot 66.
C'est arrêté parce que l'équilibre financier n'y était pas. Là, on se demande comment va être financé et qui met l'argent. Puisque là, on fait un demi-train au départ et il revient à vide.
Jérôme Le Borgne, directeur général du fret SNCF, se veut rassurant.
La liaison est subventionnée, hein. Elle a fait l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt. Et puis il y a aussi une autoroute ferroviaire entre Le Boulou, juste à côté de Perpignan, et le port de Gennevilliers en Ile-de-France. Donc l'autoroute ferroviaire, c'est des camions sur les trains. Et l'ensemble de l'offre est de l'ordre de 25 000 camions de moins sur les routes.
Ce genre de projet intéresse la Fédération nationale des transporteurs routiers qui demande à être associée aux discussions. Françoise Glaise, déléguée régionale pour l'Occitanie.
dans un souci d'écologie, de confort des conducteurs. Il faut que la consultation soit plus large.
Depuis 2007, une autoroute ferroviaire relie déjà le Boulou au Luxembourg. Ces trains, parmi les plus longs d'Europe, permettent d'économiser jusqu'à 62 000 tonnes de CO2 par an.
Cécilia Arbonnat, il n'a plus le droit à Twitter, Facebook et YouTube, qu'à cela ne tienne. Donald Trump lance son propre réseau social, baptisé Truth, la vérité opérationnelle début 2022, pour résister, dit-il, à la tyrannie des géants des technologies. Enfin, on ne croise pas de Donald Trumpix dans le dernier Astérix, mais on y retrouvera d'autres personnages qui font l'actualité. C'est ce jeudi que sort Astérix et le Griffon, 39e aventure du nom, où les héros moustachus mettent le cap à l'est, Alexis de Meyer.
Nous sommes cette fois-ci à des milliers de kilomètres de l'Armorique. Après l'appel au secours d'un chaman, le druide Panoramix se lance avec Astérix et Obélix dans un road trip transsibérien. Jean-Yves Ferry est le scénariste d'Astérix depuis 2013.
J'avais depuis longtemps l'envie de les envoyer dans la neige. Cette fois, ils sont vraiment au bout des steppes là-bas. Russie, Kazakhstan. C'était au départ une idée autour des pays scandinaves. Et puis finalement, c'est sur l'Est et les Sarmates. Je me suis dit là, la neige pourra ressortir, servir de déco.
Une armée romaine s'y aventure pour tenter de capturer un griffon, créature mythologique mi-aigle, mi-lion. Michel Houellebecq prête ses traits à Terrinconus, le géographe de Jules César. Et un personnage nommé Chloroquine ressemble beaucoup à Didier Raoult.
J'avais pas envie de parler de la pandémie de façon développée, mais il y a quelques petites allusions. Quand les Romains parlent du déconfinement, pour eux, c'est revenir des confins.
Ce nouvel album permet en effet de savourer une traditionnelle fournée de jeux de mots, Jean-Yves Ferry.
C'est même un conservatoire du calembour. Parce que si vous regardez bien, c'est un truc un peu désuet. Mais dans Astérix, ça fait partie du décor.
La saga d'Uderzo et Goscinny est aussi l'occasion de faire des clins d'œil à notre époque. Il est ici question de fake news ou encore de femmes qui prennent le pouvoir tandis que les hommes s'occupent des tâches ménagères.
Et ben voilà, Astérix et le Griffon, ouais. Peut-être un jour un Nicolas de Morandus.
Non, un Pierre Askix. Un Pierre Askix dans
Géopolitics,
voilà, c'est dans quelques instants. Merci Florence Paracuelos, notre barde préférée.
Marie-Pierre... Je ne chanterai pas.
Ah oui, Marie-Pierre Planchon, la druidesse arrive.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Marie-Pierre.
Oui, c'est Falbala aujourd'hui.
Voilà, Falbala, c'est mieux. Toujours trois départements, Marie-Pierre, en vigilance orange, vent violent.
Oui, qui concerne encore la Champagne-Ardenne et la Meuse, car la tempête Aurore poursuit sa route vers les Pays-Bas, l'Allemagne, en perdant de son intensité. Les nuages et la pluie ont gagné ce matin le Jura jusqu'à la Côte d'Azur, aux Côtes Varoises, avec de la neige sur les Alpes des 1800 mètres. La Corse, elle, reste à l'écart. Ailleurs, vous avez un ciel de traîne très agité entre éclaircies et averses, et attention près des côtes atlantiques à cause d'une grande marée et la houle toujours très forte sous un mercure très contrasté ce matin entre les 5 degrés en Corse et les 19 dans le Gard à Aigues-Mortes. Il fait 12 à Paris, 14 à Strasbourg et à Brive.
Et cet après-midi, le vent soufflera moins fort.
Oui, les rafales ne dépasseront pas, Nicolas, les 80 km/h, accompagnées encore de fortes giboulées qui tomberont au nord de la Loire, avec tout de même quelques éclaircies près des côtes de la Manche. Le ressenti va rester donc maussade sur ces régions. En revanche, ce sera soleil des Alpes à la Méditerranée sous le vent et des éclaircies et des nuages sur le sud-ouest, et la baisse sera généralisée aujourd'hui, pas plus de 14 à Cherbourg, Metz, Aurillac. Vous aurez 15 à Paris, 19 à Bordeaux, 22 à Marseille et 23 à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre et à tout à l'heure. France Inter, 8h19, c'est Géopolitique.